Vous êtes avec SBS French.
Hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
Et tout d'abord, les grands titres de ce dimanche 1er mai. La Nouvelle-Galles du Sud et le Victoria ont enregistré 12 autres décès combinés liés au Covid-19 et près de 17 000 nouveaux cas de virus. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky déclare que 23 000 soldats russes ont été tués en Ukraine. Les élections fédérales en Australie, les travaillistes lancent leur campagne officielle ce dimanche à Perth. La Nouvelle-Galles du Sud et le Victoria ont enregistré au total 12 autres décès liés au Covid-19 et près de 17 000 nouveaux cas de virus ce dimanche. La Nouvelle-Galles du Sud a signalé plus de 9 000 infections ainsi que 5 décès, alors qu'il y a eu 7 654 nouveaux cas dans le Victoria et 7 décès ce dimanche. Il y a actuellement plus de 300 000 cas actifs à travers le pays. Près de 3 200 patients sont hospitalisés, dont environ 145 en soins intensifs. Les élections fédérales en Australie, le Premier ministre Scott Morrison et le leader travailliste Anthony Albanese participeront à un autre débat le week-end prochain sur la Nine Network. Ils ont déjà participé à un débat sur Sky News. Anthony Albanese a été nommé vainqueur ce soir-là avec 40% des téléspectateurs qui le soutenaient. Scott Morrison, quant à lui, parle d'un choix clair.
This election is a choice. It's a choice between a government that you know. A government that has taken action to get Australia through one of the most difficult times this country has seen in generations and has a clear plan for the economy.
Le chef de l'opposition fédérale est en Australie-Occidentale et a annoncé hier le projet de fabrication de 135 bus électriques avec la promesse d'un financement de 125 millions de dollars qui a été dévoilé. Le lancement officiel de la campagne des travaillistes, c'est en ce moment même, ce dimanche 1er mai. Anthony Albanese a déclaré que l'approche de son parti consiste à renforcer toute fabrication, toute manufacture en Australie.
A core part of my pitch to the Australian people is making more things here. One of the lessons of the pandemic is we have to stand on our own two feet. We're vulnerable if we're at the end of supply chains.
Les agences de renseignement en Australie surveillent de près une éventuelle ingérence chinoise dans les élections fédérales. La ministre de l'Intérieur, Karen Andrews, a déclaré la semaine dernière que l'accord de sécurité de Pékin avec les îles Salomon était significatif et que Pékin était, je cite, clairement conscient que l'Australie était au milieu d'une campagne des élections fédérales. Les travaillistes ont critiqué la ministre avec le porte-parole du Labour, Jim Chalmers, affirmant que les commentaire de Karen Andrews était, je cite, remarquablement désespéré et remarquablement déséquilibré. Ce dimanche, le ministre des Finances, Simon Birmingham, a déclaré sur Sky News que les commentaires étaient légitimes.
We've known that foreign interference is a real risk in the Australian electoral landscape and in Australian politics generally. It's why we, as a government, put in place foreign interference laws as part of a range of different protections that we've applied to Australia in response to the more aggressive and assertive stance of China and indeed other risks over recent years.
Le chef des Verts, Adam Bent, a déclaré que son parti donnerait ses votes préférentiels au Labour. Il a appelé les électeurs à penser à privilégier les candidats travaillistes et indépendants engagés dans la politique sur le changement climatique.
This election, the Greens will be preferencing Labour above the coalition because we need to kick the Liberals out. People can safely vote for the Greens knowing that they'll be helping to change the government. Of course, people can decide their own preferences. It's not up to the parties to determine them. They can only recommend them. But if people vote according to the Greens How to Vote card, their preferences will go to Labor above the Liberals.
La guerre en Ukraine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que la Russie avait perdu plus de 23 000 soldats dans ce qu'il a décrit comme une, je cite, « guerre insensée ».
The occupiers are gathering additional forces for new attacks against our military in the east of the country. They brought reinforcements to the Kharkiv region, trying to increase pressure in the Donbas. They have lost more than 23,000 soldiers in the battles of this senseless war for Russia. But they do not stop.
Volodymyr Zelensky a aussi déclaré que l'Ukraine avait détruit plus d'un millier de chars russes, près de 200 avions et près de 2500 véhicules blindés pendant le conflit. Il a ajouté que, je cite, « des milliers de soldats russes seront tués et des milliers blessés dans les semaines à venir ». Reportage de Nicolas Feldman pour RFI.
Oui, avec la reprise du village de Roska-Lozova. Cela se trouve au nord-est de l'Ukraine, près de la ville de Kharkiv. Le ministère de la Défense ukrainien rapporte que cette localité a été libérée après d'intenses combats. Plus de 600 habitants ont pu être évacués. Mais pour le reste, les succès côté ukrainien restent maigres. L'armée, moins nombreuse, moins bien équipée aussi que les forces russes, doit céder du terrain sous le feu de l'artillerie adverse. C'est le cas notamment dans la région de Donetsk, explique le général Olivier Kempf. Il est chercheur et directeur du cabinet stratégique La Vigie.
C'est du grignotage. C'est lent. Et pourquoi c'est lent? Parce qu'en face, on a des Ukrainiens qui ont d'abord mis le gros de leurs forces face au Donbass et qui, d'autre part, ont mis 8 ans à s'enterrer, se préparer, organiser des positions défensives successives. Et donc, il s'agit pour les Russes de finalement conquérir ces réseaux successifs de défensives.
Dans ce qui ressemble à une guerre d'usure, les combats se concentrent désormais sur 3 fronts. D'abord, dans le nord du Donbass, entre les villes d'Izium et de Severodonetsk, dans le sud du pays, ensuite non loin de la ville de Mariupol et enfin autour de Kherson, ce qui n'empêche pas les Russes de frapper encore plus à l'ouest. Ce samedi, l'aéroport d'Odessa a été touché par un missile, rendant la piste d'atterrissage impraticable.
La France va renforcer son aide humanitaire et aussi l'aide militaire à l'Ukraine. C'est ce qu'a annoncé le président français après un échange téléphonique avec son homologue ukrainien, Lucas Désiré, pour RFI.
Emmanuel Macron insiste sur sa volonté d'œuvrer activement à rétablir la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Ce sont ses mots alors que la France fait partie des pays qui se mobilisent déjà sur le plan militaire. Paris envoie à Kiev des milliers d'obus, mais aussi, et on le sait depuis la semaine dernière, de l'artillerie lourde. La France livre ainsi à l'Ukraine des missiles anti-chars Milan et des canons d'artillerie César, selon l'Élysée. 40 soldats ukrainiens doivent rejoindre l'Hexagone dans les prochaines semaines pour se former à l'utilisation de ces canons. En plus de ces livraisons, Emmanuel Macron veut aussi renforcer l'aide humanitaire pour les Ukrainiens. Au total, Paris rapporte avoir livré plus de 615 tonnes d'aide depuis le début de la guerre. L'Élysée évoque notamment du matériel médical, des denrées alimentaires ou encore des groupes électrogènes pour les hôpitaux et des véhicules d'urgence.
L'envoyé spécial des Nations Unies du HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés, l'actrice américaine Angelina Jolie, s'est rendue hier samedi dans une gare de la ville ukrainienne de Lviv. Alors, lors d'une visite surprise dans le pays, Angelina Jolie a rencontré et parlé aux victimes du traumatisme de cette guerre et du soutien reçu, en particulier pour les enfants.
I know how trauma affects children, and so it's, but I know that just having somebody show how much they matter, how much their voices matter, I know how healing that is for them.
Le ministre moldave des Affaires étrangères, Nicu Popescu, a déclaré que l'avenir de l'Europe dépendait de la fin de la guerre en Ukraine. La Moldavie a suivi de près le conflit en Ukraine, en particulier après qu'un haut responsable militaire russe a déclaré que les forces russes visaient à prendre le contrôle total du sud de l'Ukraine, qui s'étend sur les frontières nord et est de la Moldavie. Lorsqu'on lui a demandé si la Moldavie était prête à demander des armes à d'autres pays si le conflit se répandait dans son pays, Nicu Popescu a déclaré que le pays n'était pas en mesure de préjuger de l'évolution des choses, mais que des préparatifs étaient en cours pour toutes les éventualités possibles.
Well, I think the future of the entire continent rests on the capacity of Ukraine to maintain its political system, its country, its resilience, and in this sense, the fate and the future of every country in this part of the world, of entire Europe, depends on how this war ends, on where it ends and when it ends.
Un député du Parti conservateur au pouvoir en Grande-Bretagne a annoncé qu'il démissionnerait après avoir reconnu avoir regardé de la pornographie sur son téléphone portable dans la Chambre des communes. Neil Parish, qui représente un siège du sud-ouest de l'Angleterre, a déclaré qu'il se retirait après ce qu'il a appelé un moment de folie totale. L'homme de 65 ans, qui est député depuis 2010, avait déjà été suspendu du Parti conservateur et fait face à au moins deux enquêtes parlementaires. Cette identification publique a mis fin à des jours de spéculation après qu'il est apparu qu'au moins deux autres politiciens s'étaient plaints qu'un député avait été vu en train de regarder de la pornographie dans la Chambre des communes au milieu d'accusations misogynes au Parlement britannique. Des défilés du 1er mai prévus un peu partout en France ce dimanche. Reportage de Mayol de Chavron pour RFI.
Une semaine après sa réélection, Emmanuel Macron confronté à un premier test social dans la rue. La CGT, UNSA Solidaire, FSU et plusieurs syndicats étudiants appellent à manifester pour la journée internationale des droits des travailleurs ce 1er mai. Si plusieurs syndicats se sont positionnés contre Marine Le Pen entre les deux tours, ils ne soutiennent pas pour autant la politique d'Emmanuel Macron. Catherine Perret, secrétaire confédérale de la CGT.
C'est une journée importante, évidemment, au lendemain des élections, puisqu'il y a des projets de réforme annoncés par le président de la République, et en priorité, évidemment, la question de la retraite et du passage à 65 ans. Et donc, la CGT, avec les autres organisations, hein, nous sommes assez nombreux, nous allons dire que nous sommes totalement tous ensemble opposés à un décalage de l'âge de la retraite à 65 ans. Mais il y a aussi d'autres sujets, hein, la question des salaires, du pouvoir d'achat, notamment lié à l'inflation. Il y a beaucoup de mobilisation à ce sujet, et on l'a vu y compris à travers les votes de nos concitoyens. Donc le deuxième sujet est avec la retraite, les salaires. Et puis le 1er mai, c'est une journée internationale, hein, pour les droits des travailleurs du monde entier. Et évidemment, dans ce contexte que l'on vit en Europe depuis deux mois, il y a aussi la question de la paix qui va être mise au centre des mobilisations partout en France, des concitoyens qui sont très inquiets de voir ce qui se passe en Ukraine.
Catherine Perret, secrétaire confédérale de la CGT au micro de Pauline Glaise. Et des défilés sont donc prévus un petit peu partout en France. À Paris, il partira de la place de la République, direction Nation. 20 000 personnes sont attendues.
L'Afghanistan marque sous haute tension la fin du mois de Ramadan. Les attentats se multiplient. Deux bombes ont frappé deux mosquées de la capitale vendredi. Reportage de Sonia Ghezali pour RFI.
Aussitôt la date de l'Aïd annoncée par les responsables talibans, des tirs ont commencé à déchirer la nuit dans Kaboul. Un internaute indigné écrit sur Twitter « Il y a des coups de feu partout, mes enfants sont terrifiés, ils sont en train de pleurer ». Le porte-parole de la police de Kaboul s'est fendu d'un message sur les réseaux sociaux vers 23h30 heure locale pour condamner ces tirs de joie, mais ils ont continué bien que plus sporadiques jusque tard dans la nuit. L'Afghanistan ne célébrera donc pas l'Aïd el-Fitr comme l'Arabie Saoudite et plusieurs autres pays musulmans lundi. L'émirat islamique, tel qu'il se surnomme, montre son autorité religieuse et politique, lui qui n'a toujours pas eu la reconnaissance de la communauté internationale. 8 mois après leur prise du pouvoir, les talibans sont toujours en quête de cette reconnaissance. Les sanctions internationales qui pèsent sur le pays ont porté un coup majeur à l'économie de l'Afghanistan. La crise humanitaire qui y sévit est l'une des pires au monde. Le pays n'en a par ailleurs pas fini avec la violence. Kaboul était sans électricité ce samedi après que des pylônes électriques ont été ciblés par des bombes dans la province de Parwan. Les attaques se multiplient contre les forces de sécurité talibanes et contre la minorité chiite Hazara. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque contre un minibus dans l'ouest de Kaboul ce samedi. Le dernier bilan fait état d'au moins 5 victimes selon les médias locaux. Vendredi, au moins 10 personnes ont été tuées dans une explosion qui a frappé une mosquée de Kaboul après la prière.
En Australie à nouveau, plus d'un Australien sur cinq souffre d'hypertension non contrôlée et beaucoup ne s'en rendent même pas compte, avec l'hypertension entraînant souvent des accidents vasculaires cérébraux potentiellement mortels. La nation est invitée à entreprendre des contrôles plus réguliers. L'hypertension artérielle ne présente aucun symptôme immédiat. Elle n'est souvent pas diagnostiquée, prévient la Stroke Foundation. Mais avec le temps, cela peut exercer une pression supplémentaire sur les parois des vaisseaux, les obligeant à se rétrécir ou à se décomposer, ce qui peut éventuellement entraîner un accident vasculaire cérébral. La vérification régulière de la tension artérielle pourrait simplement sauver des vies, car l'hypertension est le plus grand facteur de risque modifiable, déclare Sharon McGowan de la Fondation. 80% de tous les AVC peuvent être évités, selon elle. On passe à la météo pour ce dimanche en Australie. À Perth, il fera 25 degrés, Adélaïde 21, Melbourne 20, Hobart 19, Canberra 18, Sydney 22, Brisbane 24, Cairns 29, Alice Springs 24 et à Darwin, maximal de 35 degrés. Un rappel des grands titres de ce 1er mai, la Nouvelle-Galles du Sud et le Victoria ont enregistré 12 autres décès combinés liés au Covid-19 et près de 17 000 nouveaux cas du virus. Les élections fédérales en Australie et les travaillistes lancent leur campagne officielle en Australie-Occidentale ce dimanche à Perth. C'est la fin du journal et merci de rester avec nous.
En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.